Bonjour à tous. Merci Philippe. Effectivement, échange de bons procédés, de bons services. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour la première fois avec vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On est voisins et on se connaît peu. Il y a de quoi renforcer nos liens et je sais que Philippe et Florian y travaillent durant l'année. On va parler aujourd'hui de Zachée. Je pense que vous le connaissez. Et ce texte nous relate effectivement l'histoire d'une rencontre, une rencontre qui est étonnante à plusieurs égards. Une rencontre entre deux hommes qui désirent se voir sans s'être concertés, sans s'être whatsappés juste avant. Une rencontre qui va au-delà des apparences, au-delà des jugements, nous le verrons. Et une rencontre qui, j'espère, nous encourage à faire un pas de plus. Et finalement, cet après-midi, je crois que c'est ce que Jésus nous déclare. Je suis là, à tes côtés. Alors viens, fais un pas de plus avec moi, en toute sérénité. Alors plantons le décor. Nous sommes ici à Jéricho, une ville importante de Samarie, à une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Le ministère de Jésus est déjà bien avancé. Entouré de ses disciples, depuis plusieurs mois, Jésus parcourt les villes et villages de Galilée, de Samarie, pour nourrir, pour guérir, pour relever de la mort et annoncer le royaume de Dieu. Juste avant d'entrer dans Jéricho, Jésus guérit une personne aveugle qui reconnaît en Jésus le Messie et fait appel à sa bonté. Et là, une fois arrivé à Jéricho, c'est là que réside Zachée. Zachée est collecteur d'impôts. Il y avait certainement à Jéricho à l'époque un bureau de péage important. Jéricho est situé à un carrefour entre la Judée et la Pérée, sur une route qui va en direction de l'Égypte. Mais Zachée cumule les torts. Il est fonctionnaire, il est riche, à la solde des Romains dans l'imaginaire des gens de l'époque, et il est chef. Alors imaginez pendant la Seconde Guerre mondiale, un haut gradé du ministère des Finances, travaillant pour le gouvernement de Vichy, disposant de revenus confortables, avec une maison à Saint-Maur. Imaginez cet homme, ici dans notre assemblée, dans votre assemblée, assis à côté de vous, dans une période avec des tickets de rationnement. On héberge peut-être parmi nous des juifs, pour échapper à l'horreur des camps de concentration. Zachée, c'est peut-être cet homme à côté de vous, sur ces chaises. Mais Zachée, c'est aussi un homme curieux. Il a entendu parler de Jésus. Il a certainement entendu parler de ses capacités hors normes, des miracles qu'il faisait, des foules qui le suivaient. Il a sûrement aussi entendu parler de la bienveillance de Jésus pour les gens dits de mauvaise vie. L'annonce a été faite il y a quelques jours que Jésus était en chemin, qu'il allait passer certainement dans la ville de Jéricho ou tout près. Zachée est curieux, il veut le connaître, ce Jésus dont on parle tant, il veut le voir, il veut l'entendre, savoir de qui il s'agit concrètement. Mais Zachée a un problème, et un problème de taille. Il est petit. Je relis les versets 3 et 4. Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Il y a de l'enjeu là, pour Zachée. Il sait Jésus tout proche, qui arrive dans Jéricho, une occasion à ne pas rater, et pourtant cette aventure pourrait tourner court, parce que la foule est trop importante. Tellement importante qu'il ne peut absolument pas voir Jésus. Alors il court en avant, il dépasse la foule, il grimpe sur un arbre aux branches très basses, pour avoir une chance supplémentaire d'apercevoir Jésus. Il est motivé, Zachée. Jésus, c'est la star dans toute la région, on en parle, alors même qu'il n'y a pas nos moyens télévisuels ou réseaux sociaux d'aujourd'hui, et Zachée veut le voir à tout prix. Et pour moi, c'est peut-être le premier exemple laissé par ce texte. C'est la motivation de Zachée. Quelle est ma motivation à moi pour venir à la rencontre de Jésus, dimanche après dimanche, et dans ma vie de tous les jours? Je ne vous connais pas, mais peut-être que certains parmi vous êtes là pour la première fois, ou pour une fois de passage. Peut-être que certains mettent les pieds dans cette église par hasard, parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il fait beau, parce que vous avez l'air sympa. Pour la plupart d'entre nous, cependant, on y met les pieds parce que c'est notre habitude. Dimanche après dimanche, on se réunit. Parce qu'on a déjà entendu parler de Jésus, on le connaît. Peut-être que c'est un ami qui nous a conseillé, lors de l'évangélisation, dans la rue, ou un inconnu, qui nous a dit, tiens, ça ne dirait pas de venir assister au culte. Peut-être qu'on a grandi dans une famille chrétienne, et que depuis tout petit, c'est normal, le dimanche, on court peut-être, mais on s'arrête l'après-midi, parce qu'on a le culte. Quelle est ma motivation pour venir ici? Pourquoi est-ce que vous êtes venu là, cet après-midi? Est-ce que c'était pour faire plaisir à papa, à maman, à votre conjoint? Est-ce que c'était pour par habitude, par routine? J'espère, et je parle d'abord pour moi en premier, que c'est avant tout pour faire un pas de plus avec Jésus, pour le découvrir encore davantage, même si cette histoire, je l'ai entendue depuis tout petit, même si à l'église, j'y vais régulièrement. Car si ma motivation, c'est de créer ou d'approfondir cette relation avec Jésus, alors je suis au bon endroit. Et j'ai bien fait de sacrifier quelques heures de soleil pour être ici. Nous allons voir que Zachée, animé par une telle motivation, reçoit tellement en retour. Et il peut en être de même pour nous, cet après-midi. Qui que nous soyons, et quelle que soit notre raison d'être là. Alors Jésus arrive. Zachée le distingue de loin, d'un peu plus près, et enfin il est là, tout près, en bas de l'arbre, à quelques mètres en contrebas. Versets 5 et 6, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. C'est dingue ce genre d'histoire, ça arrive toujours que dans les livres, dans les films, les séries, et là, ça arrive dans notre texte, et on sait que ce texte, c'est la vraie vie. Parole inspirée. Le héros, là, souhaite découvrir qui est cet homme dont tout le monde parle. Et comme par hasard, alors qu'il est tout petit, il est censé ne rien voir, il se déniche un siège bien placé, aux premières loges, et non seulement il voit ce phénomène, ce Jésus dont tout le monde parle, mais Jésus l'appelle, lui, Zachée. Imaginons le chamboulement de Zachée, ce qui doit se passer dans son cœur, ses palpitations. Jésus l'aperçoit et l'appelle par son nom. Et Jésus veut passer la nuit chez lui, chez Zachée. Et si Jésus nous lançait à nous aussi cette invitation cet après-midi, heure de la sieste, je suis pas venu avec mes enfants parce qu'ils dorment, j'espère que c'est pas notre cas, si Jésus nous disait, hey, toi, arrête de rêvasser sur ta chaise, c'est toi que je désire voir, c'est toi que je désire rencontrer. Jésus m'appelle aujourd'hui à le rencontrer. Alors, quelle est ma réaction? Pour Zachée, c'est la joie. Il est tout fou. Je pense qu'il n'avait même pas imaginé dans ses propres pensées, par anticipation, que Jésus pouvait venir chez lui, déjà lui parler et s'inviter chez lui. Alors, il se dépêche de descendre, tout joyeux, et d'aller donner quelques ordres pour préparer la maison. Il y a de quoi faire, il faut ranger, il faut préparer la chambre d'amis, peut-être, passer la spie, j'en sais rien. Préparer le repas, évidemment. Donc, Zachée a de quoi faire pour recevoir Jésus dignement. Et moi, qu'est-ce que je fais pour recevoir Jésus dignement? Lui qui désire me rencontrer et qui m'interpelle cet après-midi encore. Alors voilà, cette histoire, c'est d'abord celle de deux hommes qui désirent se voir et l'occasion se produit de manière étonnante. Zachée regarde Jésus, Jésus regarde Zachée. C'est l'histoire d'une rencontre, une rencontre étonnante. Une rencontre qui ne s'arrête pas là, puisque Jésus se rend chez Zachée, bien au-delà des apparences, bien au-delà des jugements. Versets 7 et 8, je reprends la lecture. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » La foule est indignée. Pour cause, on l'a dit au début, Zachée est collecteur d'impôts, de mises avec l'occupant romain, et il est riche, très riche. Mais heureusement que Jésus ne s'arrête pas aux apparences, sinon Zachée et lui ne se seraient jamais rencontrés. Et pensons à la Samaritaine, étrangère, à la femme impure qui touche Jésus, à la prostituée, au centurion. Heureusement, oui, que Jésus ne s'arrête pas aux étiquettes que la société nous donne, aux caractéristiques qui nous collent à la peau. parce que les collecteurs d'impôts avaient très mauvaise réputation, toujours associés aux personnes de mauvaise vie dans l'Évangile. On le voit en Luc 3. Avant le début du ministère de Jésus, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, annonce l'arrivée du Messie. Il proclame le changement radical, le fait de se débarrasser de ses travers, de sa mauvaise vie, se faire baptiser et agir de manière nouvelle. Mais la foule s'interroge sur ce changement radical, sur les fruits qu'il est censé produire en chacun. Et on en a parlé un peu ce matin. Jean-Baptiste en donne quelques exemples très concrets. La générosité, le partage, la paix, la justice. Et quand des collecteurs d'impôts viennent justement le questionner et lui demandent ce qu'ils doivent faire pour recevoir le baptême, Jean-Baptiste répond « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » On est en plein dedans. C'est une vérité, les collecteurs d'impôts à l'époque avaient une tendance assez fâcheuse à demander plus d'argent aux citoyens que le vrai montant exigé par l'État romain. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment impossible avec la déclaration en ligne des impôts. Mais à l'époque, c'était courant. Mais on parle là de collecteurs d'impôts. On ne parle pas de tous les collecteurs d'impôts. Il y a quelques années, alors qu'on préparait une colonie de vacances avec plusieurs responsables de colo, on nous a posé cette question. Quel est le mot qui, d'après vous, caractérise Zachée? Vous avez déjà entendu l'histoire de Zachée, évidemment, dans mon enfance, à l'école du dimanche. Donc je réponds, très sûr de moi, voleur. Zachée est un voleur. Relisons le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le poids double. » Alors les avis sur ce verset sont un peu partagés. Vous avez le droit de dire que Zachée est un voleur. Moi, j'ai changé d'avis. Je crois que Zachée énonce là, par ses paroles, une simple vérité, finalement. La vérité qu'il concerne lui, dont il est acteur. Et je crois que Zachée n'est pas un collecteur d'impôts comme les autres. Alors que la foule s'interroge sur ce qui motive Jésus à visiter Zachée, ce pécheur, Zachée se redresse et, debout, publiquement, répond aux accusations dont il fait l'objet. Loin de se mettre en avant, de paraître orgueilleux, je crois que Zachée se défend et indique à ses accusateurs que, s'il est peut-être pécheur, il n'en reste pas moins qu'il est très généreux et fait extrêmement attention à n'exiger rien en trop et, si ça lui arrive, par mégarde, à rembourser 4 fois plus. Et on a là un petit point historique à faire. Dans la loi de Moïse, sous l'Ancienne Alliance, dans Lévitique ou Nombre 5, la loi exigeait que, quand la restitution est volontaire, on rembourse le bien plus 1/5 du bien. Mais si c'est une restitution forcée, on me prend sur le fait et on prouve que j'ai volé, c'est le double que je dois rembourser. Donc si je vole ton mouton, je t'en rends 2. Mais si le mouton que je t'ai volé, je l'ai déjà mangé, je dois t'en rendre... Donc la faute porte du coup sur 2 moutons, donc je dois t'en rendre 4. D'où l'idée du quadruple évoquée ici. Bref, là en gros, on est dans la peine maximale en cas de vol. Et Zachée, là, s'inflige, en cas de vol par mégarde, je crois, la peine maximale qui était exigée dans la loi de Moïse. Et je crois vraiment que Zachée n'est pas un voleur, mais que c'est un homme généreux, qui connaît la loi, qui la respecte, au-delà même de ce qu'il devrait. Nous parlions tout à l'heure du Zachée curieux, de cet exemple à suivre. Nous voilà maintenant avec un Zachée généreux, un exemple à suivre également, dans nos dépenses au quotidien, dans nos dépenses pour l'Église, pour la mission, pour les œuvres. Jésus ne s'arrête pas aux apparences, heureusement. Il y a là un double message dans cette affirmation. D'abord, à quoi est-ce que nous regardons? Ne sommes-nous pas parfois comme cette foule, à nous demander pourquoi un tel bénéficie de la grâce de Dieu, alors que nous, bien sûr, nous sommes tellement meilleurs? Ne regardons pas l'apparence, ne jugeons pas les gens qui nous entourent, mais cherchons à les connaître vraiment, savoir qui ils sont, ce dont ils ont besoin. Accueillons l'autre comme Jésus nous accueille. Car non, je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas meilleur que mon frère, que ma sœur, je suis pécheur, au même titre que tous ceux qui m'entourent. Et ni moi, ni vous, aucun d'entre nous ne mérite la grâce de Dieu, son regard sur nous. sachez non plus ne le mérite pas. Nous sommes tous perdus, comme le souligne le verset 10. Et pourtant, Dieu pose son regard sur nous. Dieu pose son regard sur moi. Et c'est là le second message, je crois, à quoi est-ce que je regarde et comment Dieu, lui, me regarde-t-il? Pascal a écrit, comme Dieu ne considère les hommes que par le médiateur Jésus-Christ, les hommes aussi ne devraient regarder ni les autres ni eux-mêmes que médiatement par Jésus-Christ. Étonnant de constater que parmi toute cette foule, le regard de Jésus s'est posé sur Zachée. Et aujourd'hui, bien au chaud dans notre église, comme Zachée sur son arbre, c'est aussi sur nous que le regard de Dieu se pose. Dieu souhaite nous regarder, nous rencontrer, au-delà de ce que nous pensons être, au-delà de nos faux semblants, au-delà de ce que nous fuyons, de ce que nous craignons peut-être. Dieu souhaite nous rencontrer chacun, individuellement, tel que nous sommes. Et s'il y en a bien un qui nous accepte, tel quel, peu importe les murmures de la foule, c'est Dieu, notre Père. Une rencontre étonnante que celle de Zachée et de Jésus, car elle débouche sur un dépassement des jugements, un dépassement des a priori, du regard des autres. Une rencontre étonnante pour un pas de plus, peut-être. Un pas de plus pour découvrir et pour accueillir Jésus. Un pas de plus pour passer du temps avec lui. Un pas de plus pour bénéficier du salut. Un pas de plus pour rester confiant dans cette grâce offerte, une fois pour toutes. Chacun, quel que soit notre parcours, notre histoire avec Jésus, nous pouvons faire cet après-midi ce pas de plus. Versets 9 et 10. Alors Jésus dit à propos de Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est une déclaration forte de la part de Jésus. Jésus indique là que bien au-delà de ses paroles ou de sa conduite, Zachée est un pécheur repenti qui a fait acte d'un changement radical. Zachée a fait demi-tour. Zachée est un fils d'Abraham, tout autant que la foule ou que les pharisiens, et peut-être même davantage, Zachée est appelé ainsi par Jésus. Ça signifie à la fois qu'il est fils d'eux, en parlant d'une descendance physique, car Zachée est juif, et fils d'eux en termes spirituels. Abraham, père des croyants, père d'une multitude dont fait partie Zachée et dont nous pouvons nous aussi, aujourd'hui, faire partie. Jésus, en déclarant publiquement que Zachée est lui aussi, tout comme les autres, un fils d'Abraham, le réhabilite. Il ne félicite pas Zachée pour ses bonnes œuvres ou pour sa conduite pourtant honorable et digne, mais il atteste devant tous que Zachée appartient au peuple de Dieu. Et c'est là le plus important. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, déclare Jésus. Personne, ni vous ni moi, personne ne connaît ni le jour ni l'heure du salut final, du jugement dernier, mais nous avons la certitude en Christ d'être sauvés, dès maintenant et pour toujours. Zachée, il l'a, cette certitude. Jésus lui-même la lui affirme. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Qui de mieux que Jésus, en qui nous trouvons notre salut, pour prononcer ces paroles puissantes? Voulons-nous avoir la certitude de notre salut? Voulons-nous entendre Jésus nous dire cet après-midi, aujourd'hui, le salut est entré dans ta vie? Alors suivons l'exemple de Zachée. Il a reconnu son état de pécheur et sa volonté de marcher avec Jésus. Il l'a accepté dans sa maison, littéralement. C'est tout, mais c'est énorme en même temps, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Les conséquences de la reconnaissance de sa perdition et de l'accueil que Zachée rend à Jésus sont infinies. Il s'agit là du salut. Le salut pour aujourd'hui, le salut pour toujours. Ça signifie que si j'accepte cet après-midi de parcourir les 10, 20, 50 années qu'il me reste à vivre main dans la main avec Dieu, alors je suis sauvé pour toujours. J'ai l'assurance de vivre éternellement auprès de Dieu, de Jésus, même après ma mort. Et cette vie-là, la Bible nous le dit, est une vie heureuse, une vie parfaite, bien loin de ce que nous vivons aujourd'hui sur terre. Qu'ai-je donc à perdre? Rien. dirait encore Pascal. Osons ce pari pour la vie. Et cette parole de Jésus a encore un autre impact, tout aussi important. Jésus atteste pour nous, croyants, repentis, sincères, marcheurs aux côtés de Jésus, Jésus atteste notre salut. Regardons bien, Jésus affirme à Zachée que le salut est entré aujourd'hui dans sa maison. Qui dit que Zachée se conduira ainsi toute sa vie, qu'il restera fidèle à Jésus, n'abandonnera pas la foi? Rien ne nous le dit. Mais Jésus, en proclamant publiquement que Zachée a accès au salut, nous rassure également sur notre propre salut, sur mon salut pour l'éternité. Aucune crainte à avoir donc sur une éventuelle perte du salut, comme parfois ça peut nous traverser. Si je suis sincère dans ma démarche avec Dieu, le salut est acquis. Et Jésus me dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ton cœur parce que tu fais toi aussi partie du peuple de Dieu. Cette vérité rassure et engage. Elle m'engage, elle nous engage à ne jamais cesser de chercher à découvrir Jésus davantage. Très concrètement, ça signifie prendre du temps, régulièrement, pour prier, pour échanger avec Dieu sur notre vie, prendre du recul sur nos choix, nos décisions, lui demander de l'aide lorsque nous sommes perdus et son avis lorsque nous sommes convaincus. Très concrètement, ça signifie passer du temps à lire la Bible, que ce soit à la maison, à l'église, sur ma Bible papier ou sur mon appli. Tout est tellement simple de nos jours avec notre smartphone en poche. Et pourtant, je suis sûr qu'on passe beaucoup moins de temps à lire la Bible qu'auparavant les générations qui nous ont précédés. Alors ne nous laissons pas éloigner par toutes ces distractions, mais tout comme Zachée, soyons curieux, ayons soif de découvrir encore davantage Dieu, même si ça fait des dizaines d'années que nous cheminons avec lui. Cette vérité rassure et engage. Elle m'engage, elle nous engage à accueillir Jésus en tout temps, ne pas le reléguer à la deuxième ou énième place, mais à l'accueillir, sachant qu'il est là, à attendre. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Alors ne le faisons pas attendre. Tout comme Zachée, empressons-nous de recevoir Jésus avec joie, un invité d'honneur, la résidence éternelle en nous, par l'Esprit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, ce berger venu sur terre pour rassembler ses brebis égarées, dont Zachée fait partie, et dont je fais partie, nous faisons partie nous aussi. Jésus, ce berger qui sur la croix a accompli la promesse de Dieu, celle de sauver ceux qui étaient perdus, celle de sauver Zachée et de me sauver, moi aussi. Cette vérité rassure et elle engage. Elle m'engage, elle nous engage à tourner les regards vers Jésus et faire ce pas de confiance. Elle nous engage à toujours espérer, en toutes circonstances, et ne jamais désespérer. Si nous marchons avec lui, si nous faisons ce pas décisif, le salut nous est offert, en Jésus, par Dieu son Père et pour l'éternité. Cette vérité m'engage, elle nous engage à rester fermement attachés à Dieu. Ayons soif, soif de Dieu. Dépassons nos peurs, nos craintes. Balayons les jugements hâtifs que nous pouvons avoir sur Dieu, sur les personnes qui nous entourent. Et partons à la découverte ou à l'approfondissement des fruits de cette rencontre. Une rencontre entre Dieu et chacun d'entre nous. Une rencontre qui, j'en suis sûr, n'aura jamais fini de nous étonner. Amen.